Scarp Ciné, séquence 13.
Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarp Sensé, ça tourne.
Et action!
Bonjour à tous, bienvenue dans votre séquence cinéma sur Radio Scarp Sensé. En ce dernier mercredi du mois d'avril, Olivier Cassas présente Frères, l'histoire vraie de deux petits garçons de 5 et 7 ans qui, abandonnés par leur mère en 1948, s'enfuient en forêt. N'oublie jamais d'Ivan Calberac sur la tromperie, l'amour et les seniors. En parlant de seniors, intéressons-nous aujourd'hui à un documentaire, Les Vieux, de Klaus Drexel, un réalisateur qui nous a emmenés avec des SDF dans Au bord du monde, avec les électeurs de Trump dans America, ou encore avec des prostituées dans Au cœur du bois. Il sort son nouveau film, Les Vieux. Rencontre avec le documentariste à l'occasion de sa venue au cinéma Millennium à Caudry dans le cadre d'une soirée avant-première organisée par De la Suite dans les images, Klaus Drexel.
Tapis rouge, sur les sorties, dans les salles obscures.
Moi, je fais à la fois du cinéma de fiction et de documentaire. J'aime bien les deux. C'est-à-dire qu'au départ, je me destinais vraiment à la fiction. Et il y a une bonne dizaine d'années, tout à coup, en me promenant dans Paris, la ville où j'habite depuis plus de 30 ans maintenant, je voyais tous les sans-abri dans la rue. Et je me dis, mais en fait, c'est des personnes qu'on voit, qu'on côtoie, mais qu'on n'entend jamais. Et c'est à ce moment-là que m'est venue l'idée de faire un documentaire sur les gens à la rue. Et voilà, c'était mon premier documentaire et j'ai adoré cette expérience. Donc j'ai passé une année avec mes nuits dehors avec les gens et voilà, ça m'a donné envie de continuer dans le documentaire.
Donc vous aimez les documentaires en immersion ?
Ben moi, ce que j'aime bien, c'est de donner la parole à des personnes qu'on n'entend jamais. Et ce que j'aime surtout aussi, c'est de découvrir le sujet pendant que je fais le film. C'est-à-dire que j'aime bien ne pas préparer, ne pas savoir à l'avance voilà de quoi le film va parler. Donc aller à la rencontre des gens sans rien préparer et être surpris moi-même en tournant le film comme le sera après le spectateur en le regardant.
Comment on passe de SDF finalement à filmer des seniors, les vieux, comme vous l'appelez dans le film?
Ben en fait, je pense que le point commun, même si ce n'est pas aussi évident au départ, c'est que c'est des personnes qu'on connaît, on sait qu'elles sont là, mais on n'entend pas leurs paroles dans le débat public. C'est-à-dire que des seniors, on en parle sans arrêt, mais toujours comme un problème. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, les EHPAD, ça coûte cher, on ne sait pas, enfin voilà. Mais en fait, la parole des anciens, on l'entend jamais.
On l'a entendu pendant le Covid et après, silence radio.
Oui, c'est-à-dire que, et souvent aussi, on parle, en fait, pour les vieux. On dit, voilà, ils sont comme ça, le Covid, ça a été compliqué. Mais donc, pour moi, l'idée, c'était vraiment de faire un film où on leur donne la parole. C'est un film sans analyse, sans commentaire. Et voilà, et je trouve que l'idée, c'était aussi d'aller voir des gens simples, dans le sens le plus noble du terme, je trouve. Parce que forcément, au début, on se dit, tiens, est-ce que pour le film, ça serait intéressant d'aller voir des stars du grand âge comme Edgar Morin, par exemple. Et finalement, je me dis non, allons voir que des personnes qui sont voilà, des personnes comme vous et moi, des gens simples. Et je trouve que ça fait au final des paroles qui sont surprenantes parce qu'elles sont incroyablement profondes tout en étant avec des mots du quotidien.
Quand on réalise le film, avec ces témoignages, on a un fil conducteur en tête ou alors on laisse vraiment la parole et après, à partir de cette parole, on fait un travail de montage par la suite.
Ouais. Moi, la seule chose que je sais en amont, avant de commencer à faire le film, c'est graphiquement à quoi il va ressembler, donc au niveau de l'image et du son aussi. Mais le contenu, le fil conducteur, en fait, ça, je me laisse totalement surprendre. C'est-à-dire, je ne prépare jamais de questions avant d'aller filmer les personnes. Et donc, je ne sais pas du tout ce qu'elles vont me dire, vous voyez. Donc, je dis toujours que j'essaye d'être un maïoticien dans le sens socratique du terme, c'est-à-dire de faire naître la parole chez les personnes, peut-être de leur faire dire des choses auxquelles ils ne pensaient même pas avant, juste en faisant naître la parole. C'est-à-dire que généralement, je mets la caméra en place. Et puis, c'est Sylvain Lézère, qui est mon chef opérateur, qui met la caméra en place. Après, lui, il s'en va et il me laisse seul en tête-à-tête avec la personne. Et voilà, je commence à parler de tout et de rien, de la météo. Et puis, de fil en aiguille, la parole naît. Et voilà.
Comment on instaure la confiance? Parce que, évidemment, quand les seniors nous racontent leur histoire, il faut qu'il y ait un rapport de confiance avec la personne qui l'interviewe.
Ben moi, je parle toujours de ce que j'appelle l'intimité de l'anonymat. C'est-à-dire que je dis aux personnes que tout ce qu'elles veulent me raconter, moi, ça m'intéresse. Moi, je peux rester des heures à les écouter si elles veulent. Et je pense que voilà, cette écoute, en fait, cette ouverture à l'écoute, amène les personnes à s'ouvrir et à se confier. Alors c'est très touchant évidemment, et c'est pour ça qu'on a aussi une très grande responsabilité quand on fait un film comme ça, parce que les personnes vous livrent des choses intimes, et au montage on se retrouve avec du matériau et où il faut vraiment veiller à préserver la dignité de chacun, de ne pas tomber dans quelque chose de voyeuriste, justement en utilisant des choses que les personnes auraient dites. D'ailleurs, si après le tournage, les personnes me disent « Tiens, ça, j'ai parlé de ça, mais je ne voudrais pas que ce soit dans le film », ça, c'est, je le respecte absolument. C'est-à-dire que je ne veux surtout pas piéger les personnes, mais justement les amener à se confier le plus ouvertement possible.
On n'a pas été beaucoup à l'école.
On a travaillé à la petite ferme. Une retraite de militaire. Ben voilà.
Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé, mais je n'ai pas été beaucoup payé.
Je suis née en 20, plus
de 100 ans. Vous voyez un peu? Vous voulez savoir si on fait l'amour tous les jours?
Oh bah.
Chacun à sa place, jusqu'au dernier souffle. On a encore des choses à donner, des choses à faire, rien que d'être écouté.
Comment vous avez choisi, sélectionné, entre guillemets, ces personnes? Est-ce qu'elles sont venues à vous? Est-ce qu'il y a eu un casting, entre guillemets?
Oui, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie que le film raconte aussi un peu l'histoire de ce qu'a été la France ces 80, 100 dernières années. Et donc, forcément, j'avais envie d'avoir une vision un peu de la France dans toute sa diversité ethnique, culturelle, sociale. Voilà, donc on se dit, tiens, j'aimerais bien avoir un marin-pêcheur breton, quelqu'un qui a travaillé dans les mines dans le nord de la France, un baron. Enfin voilà, toutes ces figures, donc on a un peu ça en tête, et puis on pose des questions autour de soi, dans son entourage, en demandant qui connaît quelqu'un, et puis après on a aussi travaillé avec des associations, par exemple de retraités, de travailleurs de maghrébins, qui nous ont mis en contact avec des mineurs.
Et j'imagine aussi que chaque histoire est poignante, chaque histoire est intime, personnelle, très émouvante aussi. Et on rigole aussi dans ce film. Le travail de montage a dû être dur, de sélectionner les parties intéressantes, parce qu'on ne veut pas blesser la personne et en même temps, on veut garder le meilleur d'elle-même.
C'est ça. Et c'est même pas, la question, ce n'est même pas de garder les choses importantes. C'est un crève-cœur parce qu'il y a tellement de choses passionnantes qu'on est obligé d'éliminer. Parce qu'on s'est retrouvé au montage avec ma monteuse Anne Souriot, qui pour moi est une collaboratrice essentielle. On s'est retrouvé avec plus de 100 heures d'images pour faire un film d'une heure et demie. Donc, il faut faire le tri. Donc, il y a plein de personnes aussi que nous avons filmées qui ne sont pas dans le film. Donc, ça, c'est toujours très... c'est difficile, quoi. C'est un crève-cœur. Mais c'est vrai qu'il faut, à un moment, faire une sélection, choisir. Comme le film n'est pas écrit à l'avance, il faut, au montage, trouver un fil rouge, en fait, un fil conducteur qui nous fait voyager à travers le film. Parce que moi, je tiens beaucoup à cette notion, même si c'est un documentaire, à cette notion de conte un peu. J'ai envie que le film ait une dimension onirique et donc, voilà, de prendre le spectateur par la main et de l'amener à travers cette heure et demie avec ces personnages. Voilà, donc on commence, nous, avec un baron qui habite dans son château, et je trouvais que ça faisait, voilà, ça nous mettait vraiment dans un univers de contes, justement. On voit d'abord un baron, puis après des paysans, et hop, avec et tout ça nous amène, en fait, dans à travers un voyage.
Vous avez parcouru la France, alors?
J'aurais beaucoup aimé aussi aller en Outre-mer, dans les Dom-Tom. Malheureusement, pour les questions de budget, de documentaire, c'est toujours un peu délicat. Mais voilà, on a été de partout, dans toutes les régions de France métropolitaine et en Corse. Et c'était un voyage extraordinaire. Et j'espère qu'en voyant le film, on retrouve aussi ce voyage.
C'est vrai qu'on ne donne pas assez souvent la parole aux anciens. Cette parole, elle est rare, elle est précieuse aussi. Ce film aussi, il est là pour montrer aussi l'importance aussi de la parole et parler à nos aînés, échanger avec eux et ne pas les laisser dans la solitude.
Ce dont je me suis rendu compte aussi en tournant le film, c'est que les personnes qui vieillissent le mieux sont celles qui sont entourées. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est totalement indispensable, c'est le lien intergénérationnel. Et moi, je rêve vraiment que ce film soit aussi l'occasion d'une sortie en famille, où, parce qu'il n'y a pas énormément de films de nos jours où des petits-enfants peuvent aller au cinéma avec les grands-parents. Les vieux ont été jeunes, mais les jeunes n'ont pas encore été vieux. Et donc, le fait de montrer, en fait, faire écouter ses paroles à des jeunes, je pense que ça peut les aider à renouer le contact, peut-être qui n'est pas toujours facile, avec leurs grands-parents.
Aujourd'hui, vous l'assumez, vous, ce titre, les vieux, plutôt que les seniors?
Mais justement, moi, je trouve que la société a toujours tendance à essayer d'édulcorer un peu les choses. Et moi, je trouve que ce terme, les vieux, c'est très beau. Et je trouve qu'au contraire, essayer de tourner autour du pot, de se dire « Ah, mais comment est-ce qu'on pourrait les appeler pour ne pas les gêner ?» Déjà, je ne vois pas pourquoi ça gênerait qui que ce soit. C'est-à-dire, on est jeune, on vieillit, on devient vieux, c'est le cours de la vie et c'est totalement normal. Et moi, je trouve qu'il est très beau et très noble, ce terme des vieux.
Et ces vieux dans ce film, ils se revendiquent vieux ou alors il y a encore un côté jeune en eux?
Ben, je pense que chacun est jeune ou vieux dans sa tête. Je pense que c'est beaucoup dans la tête que ça se passe. Mais on voit des personnes qui ont énormément de vitalité, beaucoup des personnes aussi qui ont une vraie sagesse du grand âge, peut-être qu'ils n'avaient pas avant. Donc ça, c'est la vie qui fait ça. Et je tiens à dire que si on prend les trois premières lettres du mot vieux, ça fait vie.
Mon père part un matin pour travailler et ne revient jamais. Ça a été la première rafle des Juifs.
J'avais envisagé de donner mes organes à la science. Mais au bout d'un certain temps, mes organes, ils sont plus bons. T'as accouché 40
non,
femmes.
Non, soigné. Sois pas sourde, hein, maintenant t'es pas sourde.
Vous faites témoigner que les vieux ou alors les familles autour, les assistantes
Non, là, l'idée, c'est vraiment d'aller voir que les personnes âgées, de leur laisser intégralement la parole, justement, de ne pas mettre non plus de voix ou de commentaires sur le film. C'est intégralement leur parole qu'on entend et de laisser un temps d'écoute aussi. C'est-à-dire, au montage, on n'a pas fait beaucoup de coupes. C'est-à-dire qu'on laisse vraiment la personne s'exprimer dans la longueur. Et j'aime énormément ces silences qui sont parfois entre plusieurs réflexions. Je trouve que parfois, justement, un silence, une image dit plus que 1000 mots, et un silence aussi, je pense.
Et vous laissez dans le montage, on va pas dire les accidents, mais en tout cas, parfois les pertes de mémoire, parce que oui, on peut être vieux, et malheureusement, il y a la maladie d'Alzheimer. Et on voit dans ce film, notamment, cette séquence où il y a un vieux qui est perdu, et il se demande où il est, et vous l'avez laissé dans ce film.
Oui, c'est Monsieur Lamblin, une personne que j'affectionne particulièrement, parce que je pense qu'il faut il faut montrer aussi dans le film la réalité du grand âge. C'est-à-dire que si on ne montre que le côté sympa, les gens rigolent, c'est bien de voir ça dans un film, mais je pense qu'il faut aussi regarder la réalité en face. Moi, je suis un grand fan du réalisateur Werner Herzog, qui dit toujours « Le poète n'a pas le droit de détourner les yeux ». Et je pense que c'est ça qui est important, et de montrer aussi ces moments un peu difficiles du grand âge.
Il n'y a pas eu de questionnement au montage, justement? Vous êtes dit « On va garder cette séquence ».
Ah ben bien sûr, on se pose toujours la question de ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Et pour moi, la question centrale, toujours, c'est « Est-ce qu'on montre la personne dans toute sa dignité ?» dans cette scène. Et je pense que Monsieur Lamblin, on est en empathie avec lui dans ce moment-là. Et je pense que c'est ça. Et cette empathie fait que le spectateur l'aime bien. Et donc, c'est ce qui nous a décidé de le garder.
Racontez-nous une anecdote de tournage qui vous a marqué, qui vous a touché.
Alors, je vais raconter une anecdote, mais je ne vais pas dire qui c'est, parce que justement, il ne faut pas dévoiler les choses. Ah ben non, c'est ça. Mais vous savez, quand on tourne un film, il y a toujours... Moi, j'aime bien justement ce face-à-face, cette intimité, donc d'être seul avec la personne. Mais souvent, quand on tourne comme ça, les familles ont envie d'assister au tournage. Et donc, elles s'installent déjà derrière la caméra. Puis à un moment, je dis, bah, je suis désolé, non, vous devez quitter la pièce parce que j'ai envie de rester seul. Mais je sais que parfois, donc notamment une fois, je savais qu'il y avait des personnes qui écoutaient derrière la porte, la femme et le fils du monsieur qu'on filmait. Et tout à coup, le gars, je lui demande s'il avait des regrets par rapport à sa vie. Et il commence à me raconter qu'en fait, la femme qu'il a épousée, c'est pas la femme de sa vie. Qu'il a eu une aventure incroyable. Il m'a raconté ça avec une émotion inouïe.
Et la famille était derrière.
Et j'avais presque envie de lui dire, mais taisez-vous, parlez moins fort, parce que votre femme est derrière la porte. Et finalement, ça, on a décidé de ne pas le mettre dans le film, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a confié à moi. Enfin, il savait que c'était filmé, mais je pense qu'il ne pensait pas à la conséquence du fait que de montrer cette image au cinéma, que peut-être toute la famille allait découvrir cette anecdote comme ça et que ça aurait pu poser un problème.
On se sent bien plus qu'un réalisateur, on se sent privilégié quand même d'avoir cette parole rare, d'avoir cette confidence, que cette confidence qu'il n'a même pas dit à sa famille. Et qui le dit à un réalisateur qui découvre.
Oui, c'est ça. Ben, on est privilégié, mais je pense toujours à cette, comme je le disais tout à l'heure, à cette responsabilité qu'on a de gérer en fait cette. Parce que une fois que la caméra est partie, les gens parlent et oublient le fait effectivement que c'est enregistré, que au montage on peut se servir de ça. Et vous savez, avec le montage on peut faire énormément de choses, même pour desservir la personne. Donc ça, effectivement, oui, c'est un privilège de rencontrer toutes ces personnes, d'avoir leur confiance, mais je pense qu'il est essentiel, après, d'en avoir conscience au montage et de veiller à préserver leur dignité.
L'essentiel, c'est ce qu'on sait, les souvenirs.
Nous, c'était le petit bal du samedi soir.
La noblesse est finie. C'était du tour des rois. Qu'est-ce que ça a à voir maintenant?
Non, on a beaucoup souffert à la mine.
Moi, beaucoup de choses à raconter.
C'est une expérience humaine que vous souhaitez aussi intergénérationnelle. Vous souhaitez, pourquoi pas, projeter ces films aussi dans les écoles, dans les centres sociaux.
Je rêve de séances scolaires, bien sûr, parce que pour l'instant, donc souvent, on a fait des partenariats pour les projections en avant-première avec des maisons de retraite. Et donc, on a plus un public senior qu'un public jeune. Mais parfois, on a quelques jeunes dans la salle et je trouve que leurs réactions sont fantastiques parce que, justement, on sent qu'ils sont émerveillés à découvrir ces paroles qu'ils ne soupçonnaient pas. Et donc, moi, je rêve vraiment que ce film soit l'occasion, comme je le disais, d'une sortie au cinéma en famille.
Le public se reconnaît à travers tous les témoignages des seniors que vous avez filmés.
Ben oui, forcément. On se rend compte qu'on a les mêmes bobos, qu'on a les mêmes soucis, les mêmes angoisses. Mais finalement, je pense que surtout ce qui plaît aux personnes, c'est qu'on ait pris le temps d'écouter des personnes comme elles. Mais après, effectivement, la position par rapport à la mort, qui est un point central à la fin du film, ça, je pense que chacun, même au cours de toute sa vie, chacun a une relation particulière avec ça. Et il y a des personnes très angoissées, il y a des personnes qui sont beaucoup plus apaisées. Mais je sais que j'ai eu, lors d'une récente projection aussi, il y a une personne qui m'a dit « Mais oui, ça m'a apaisé de me rendre compte que d'autres personnes sont moins angoissées à l'avance, avec le grand âge de la mort. » Et donc voilà, j'espère que ça va aider la réflexion, que ça va ouvrir le...
Qu'est-ce qu'on en fait aussi de ce film? Est-ce que derrière, vous, bien sûr, vous montrez ces témoignages, mais est-ce qu'il y aurait peut-être, pourquoi pas, à côté une exposition photo, ou alors continuer aussi à récolter ces témoignages?
Moi, maintenant, j'ai fait le film. Une fois que le film est fait, il appartient à tout le monde. Et donc, après, j'aimerais bien que peut-être des associations ou des structures s'en emparent et organisent des choses. C'est vrai qu'une expo photo ou un livre, c'est-à-dire que mon premier film, Au bord du monde, sur les sans-abri à Paris, a fait l'objet d'un magnifique livre photo qui a été publié avec les photos que Sylvain Lézère, mon chef opérateur, a prises pendant le tournage. Et donc... le film vivra après. Et j'espère aussi qu'il pourra faire bouger un peu le débat public. D'ailleurs, on fait le jour de la sortie au cinéma, le 24 avril, on fait une projection au ministère des Affaires sociales aussi, où j'espère que des ministres verront le film et ça ouvrira leur réflexion.
Vous attendez quoi au final de ce film pour le public ? C'est un regard plus ouvert sur les seniors, c'est de les écouter plus, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est peut-être de plus leur donner la parole, même dans les médias.
Oui, je pense que c'est déjà ça, leur donner plus la parole, donner envie aux gens d'écouter l'autre, d'aller voir l'autre, mais pas que les vieux, mais l'autre. En fait, ceux qui sont différents, je pense qu'il y a une... En fait, on ne soupçonne pas la richesse en fait, que c'est l'émerveillement qu'on ressent en écoutant des gens différents. Moi, c'est-à-dire que, il m'est arrivé une fois une histoire incroyable, je prenais un taxi avec un chauffeur qui était cambodgien, et je commence à discuter avec lui. Au début, c'était une course assez longue, et je me dis, bon voilà, le mec vient du Cambodge. Et puis finalement, il me raconte qu'il a fui les Khmers rouges avec son frère, qu'ils ont fui dans la forêt, qu'ils se sont fait tirer dessus. Son frère a été abattu, et pendant 48 heures, il a dû se cacher sous le corps de son frère avant de pouvoir continuer sa fuite. Et c'est comme ça qu'il est arrivé en France après. Et vous vous rendez compte, c'est incroyable. On rentre dans un taxi, on se dit, voilà, un chauffeur. Et le gars a vécu un truc totalement dingue. Et je pense que, voilà, il y a une surprise. On peut trouver une surprise chez chaque personne. Et j'aimerais que le film, voilà, aide à ça aussi, donne envie d'écouter l'autre.
Ce film, il vous a marqué ? Il a changé quelque chose en vous ?
Mais forcément, c'est-à-dire que à chaque fois, quand on fait un film comme ça, un documentaire sur des personnes... ça vous enrichit, et ça c'est je pense que d'une certaine manière peut-être que le film m'a aidé aussi à moi-même à avoir moins peur de la mort en voyant que les anciens sont plus apaisés à l'arrivée de l'échéance. Et surtout, à chaque fois quand on fait un film comme ça, ça me conforte dans l'idée qu'il faut s'intéresser à l'individu, ne pas mettre les gens dans les cases, parce qu'on a tendance à dire les vieux ils sont comme ça, ou les jeunes ils sont comme ça, ou les SDF sont comme ça. Mais en fait, le monde n'est fait que d'individus, et chaque personne mérite à être découverte. Et c'est ça l'émerveillement que j'ai à chaque fois que je fais un film comme celui-ci.
Briser les cases, briser les tabous aussi, hein, le tabou de les questionnements autour de la mort, et puis s'ouvrir aussi... ouvrir notre regard pour voir les vieux justement, en salle. Quel jour ? Quelle date ?
Le 24 avril, donc dans toutes les bonnes salles.
Voilà. Dans toutes les bonnes salles, bien sûr. Merci beaucoup, Klaus Drexel, de nous avoir partagé ce film. Si vous voulez dire un dernier mot pour donner encore une dernière fois envie aux auditeurs de voir votre film.
Oui, ben déjà, je suis ravi de faire cette tournée dans les Hauts-de-France. C'est une région que j'aime particulièrement. Et donc, il y a des témoignages absolument poignants, notamment de M. Michalik, qu'on a tourné à Salomine, qui nous raconte sa première descente à la mine quand il avait 15 ans. C'est totalement poignant. Et voilà, donc on peut découvrir son témoignage et plein d'autres encore. Et je trouve que c'est une grande richesse qu'on a en écoutant toutes ces personnes.
On invite les auditeurs à découvrir votre film. Merci beaucoup. Une interview réalisée ici au cinéma Le Millennium à Caudry. Une projection avec de la suite dans les images.
On n'entend plus rien. Donc ça permet de dire plein de conneries.
Mon père était maire comédiste de Douarnenez. Et mon beau-père était gaulliste.
T'as pas de sonotone. T'es pas comme Josette.
Je vais mourir en hurlant.
Elle a les lunettes, le sonotone et le dentier. Eh bien, j'ai dit, dis donc, quand t'as tout sorti, reste pas grand-chose. Hein.
Scarpe Ciné sur Radio Scarpe Sensé.
C'était bien. Je
c'est qu'avec c'était frais. Quand je fus junior, je fus réglé alors, sculpté par l'âge adulte, la vie.
Seigneur, j'adore, j'adore. Le jeu avance, ce sont là de très bons niveaux, toujours intense.
Catherine Ringer interprète Senior. Dans cette émission Scarpe Ciné, nous faisons un zoom sur les sorties de la semaine avec les réalisateurs et réalisatrices. En salle, en ce 24 avril, première affaire de Victoria Musseldak. Souvenez-vous, nous l'avons rencontrée début novembre à l'occasion de la projection de son film en avant-première au Arras Film Festival. Je vous propose donc de réécouter ce passage avec Éric Millot, délégué du Arras Film Festival, donc en compagnie de Carole et de moi-même, Joris. C'était le 1er novembre 2023.
Moteur, ça tourne en région. Action sur les productions tournées chez vous.
Son film est soutenu par Pictanovo, communauté de l'image en Haute-France. Un film qui retrace les débuts difficiles d'une jeune avocate parisienne aux prises avec sa première affaire criminelle à Arras. Un film qui a été tourné en partie à Arras, présenté au Locarno Festival. Le film s'appelle « Première affaire », Éric Millot.
Oui.
Vous avez deviné la réalisatrice.
Ah bah oui. Même si on ne se connaît pas, j'ai deviné, oui.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour. Bah, je dis on ne se connaît pas, si je connais votre film, quoi, ce qui est important.
Bonjour, c'est Victoria Musseldak.
Bonjour.
Bonjour.
Non, bonjour, oui.
Merci d'avoir accepté cette surprise pour Éric Millot, parce que vous allez présenter votre film qui était tourné à Arras. Éric Mio, qu'est-ce qui vous a plu tout d'abord dans le film de notre invité?
Ah ben, c'est pas le fait qu'il soit tourné à Arras déjà. C'était pas le. D'ailleurs, je sais même plus s'il dit. Enfin, lorsqu'on nous a montré le film, je me souviens pas qu'on sache qu'il était tourné à Arras. Je me demande si je l'ai pas découvert en m'apercevant en cours. Je savais qu'il était produit en région, mais je savais pas trop. Et donc, j'aime pas trop en savoir en fait quand je découvre les films. Et ce qui m'a plu, c'est son approche. Cette jeune avocate là qui découvre à la fois la vie, un métier, puis qui est aux prises à cette affaire qui la dépasse un peu, mais dans laquelle elle va apprendre à grandir avec. Et c'est vraiment un très beau film, hein. Bravo Victoria.
C'est gentil, merci. Ça fait plaisir.
Voilà. Puis il y a une super comédienne qui est Noé Habita aussi, qui a le rôle. Enfin, après, ceux qui connaissent le festival aussi, ils connaissent l'acteur principal, hein, qui est
Anders, Daniel Sandley.
Voilà, qui était dans beaucoup de films dans un certain nombre de films qu'on a pu présenter. C'est d'ailleurs ça qui c'est assez étrange d'ailleurs de le voir dans la rencontre et puis de le voir dans le film. Ça, et puis je trouve que ça fonctionne bien en fait. Il est tout à fait. Crédible en policier français. Et oui, il apporte cette espèce d'étrangeté aussi qui est chez lui, qui est forte en fait.
Ouais. Non, puis bon, après, c'est ça aussi, hein, c'est qu'il y a des mélanges de nationalités un peu partout. Pour être policier, il faut être français.
Oui, mais.
De nationalité, mais là, moi, ce qu'on s'était raconté, c'était que c'était sa mère qui était norvégienne, mais son père français. Voilà, pour tout vous dire.
Alors, oui, c'est vrai, il a un côté, mais il parle très bien le français. Voilà. Ouais. Après, bon, il faut. Arras n'est qu'un cadre, c'est l'histoire qui me semble essentielle dans le film, dans ce que ça raconte. Et c'est vrai que on peut s'intéresser à une affaire criminelle, mais c'est aussi surtout et elle est présente dans le film. Hein, d'ailleurs, on accueillera aussi le jeune acteur qui joue celui qu'elle est chargée de, qu'elle est chargée de défendre. Mais c'est surtout le parcours intérieur de cette jeune femme qui est vraiment important et qui est le centre du film.
Les policiers vous ont placé en garde à vue pour vous interroger dans le cadre d'une enquête pour enlèvement et séquestration. Je vais vous aider à raconter votre histoire aux policiers.
Un corps a été retrouvé dans le champ des loges.
La OTT.
La garde à vue vient d'être requalifiée en homicide volontaire.
Oui, c'est ça. C'était vraiment le point de vue, un point de vue intime. Traiter le métier d'avocat et ses débuts, mais d'un point de vue intime. Donc de voir toutes les répercussions que ça avait sur sa vie privée, dans sa famille, sur ses relations avec les autres, etc.
Voilà, mais là, elle est avocate, vraiment... mais c'est vrai qu'elle pourrait être n'importe quel métier. Alors bien sûr, là, elle est exposée à des choses dures, c'est ça la
exactement.
Différence.
Ouais.
Mais ça aurait pu être un autre métier. C'est tous les gens qui découvrent, enfin qui font leur premier pas à la fois dans la vie, parce qu'il y a l'aspect sentimental des choses, et l'aspect, ouais. Sans dévoiler, trop spoiler le film quand même, il faut pas qu'on... Faut qu'on donne envie.
En tout cas, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est de voir comment on part de sa famille d'origine quand on est jeune, enfant, adolescent, tout ça, jeune adulte, et comment pour rentrer dans la société et avoir une fonction dans la société, on se transforme et la manière dont les métiers influence aussi et modifie notre personnalité. C'est ça qui m'intéressait, c'est ça qui est aussi traité dans le film. Voilà.
Ce qui est bien avec Éric Mio, c'est que finalement, il fait l'interview aussi. J'avais plein de questions et finalement, c'est Éric Mio qui pose les questions à ma place, ce qui est aussi intéressant. Voilà, donc, c'est intéressant. Je vais revenir un petit peu sur le choix d'Arras. Pourquoi choisir la ville d'Arras comme décor du film? C'est une ville qui a un caractère, qui a un visuel, qui a un charme cinématographique.
Moi j'ai trouvé. J'ai trouvé. De toute façon, là, il fallait qu'elle soit un peu éloignée de chez elle pour tout un tas de raisons liées à l'histoire et pas dans un terrain inconnu et qu'elle découvre un endroit. Donc, de toute façon, on a cherché effectivement dans la région nord, mais on a fait plusieurs villes et c'est vrai que je suis assez tombée amoureuse du commissariat, qui est le vrai commissariat d'Arras.
C'est vrai.
Que je trouvais très cinégénique et très beau. Et donc voilà, ça a été plutôt des choix artistiques qui m'ont conduit à tourner à Arras. Il y avait la résidence aussi. Puis on a tourné aussi dans la prison de Longuenesse. Alors c'est pas Arras, mais dans la vraie prison. Et je voulais, pour des raisons de crédibilité, et aussi pour plonger les comédiens dans des univers assez réalistes et voilà, tourner dans des vrais endroits, quoi. Donc voilà.
Ça amène aussi une autre manière de filmer, le fait de tourner dans de vrais endroits.
Bah c'est très. Enfin moi, de toute façon là, le film, il y a des choix artistiques en termes d'images, de couleurs, de cadres, etc. Enfin bon, il y a un travail qui est esthétisant. Et après, c'était aussi de saisir quelque chose de la réalité de ce métier et d'être au plus près de ça. Donc, ça amène, bah pour moi, ça c'est sûr, et même pour les comédiens, je pense que c'est important pour le jeu, tout ça, d'être plongé, immergé aussi dans l'atmosphère qui existe.
La garde à vue, l'instruction, les flics, du temps perdu et un paquet d'emmerdes.
C'est vous qui m'avez envoyé sur cette affaire. Je représentais un des suspects potentiels.
Impressionnant, vous paraissez si jeune.
Non mais Nora, t'as passé 2 jours avec un criminel ? Vous risquez un procès aux assises et jusqu'à 30 ans de prison pour meurtre.
Moi, j'ai rien fait. Le policier me fait peur.
Je pars là.
Pourquoi vous êtes à Paris? J'ai rencontré quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec ton affaire, j'espère.
Vous parlez aux flics en dehors de la procédure?
Il a massacré une fille de 17 ans à coups de barre de fer. Ça te réveille pas la nuit quand tu penses à elle?
Il est innocent. Et je vais le prouver.
Carole.
Donc, moi, je me pose toujours cette question. Quand on choisit de vrais endroits, donc, et pas des endroits neutres, on est dans un commissariat de police, on est dans une prison, ça doit demander des tonnes d'autorisations, tout ça.
Oui. C'est pas moi qui m'en suis occupée, mais oui. Oui, ça demande des autorisations, ça demande aussi de se coller au fonctionnement du commissariat pour pas déranger, de la prison aussi pour pas déranger. Voilà, il y a effectivement des autorisations et surtout beaucoup de règles à respecter.
Mais et donc quand on est une réalisatrice, on croise très fortement les doigts à chaque fois.
Ouais. là pour le commissariat surtout, parce que j'avais vraiment flashé dessus et je m'y voyais, donc j'étais très contente qu'on l'ait, et c'était quand même une petite victoire déjà, parce que c'était un décor important.
Dans une interview justement pour le Locarno Festival, vous dites justement que vous êtes influencée par Raymond Depardon, par le photographe.
Oui, entre autres, mais c'est vrai que j'ai, là pour écrire, j'ai déjà interviewé plein d'avocats, ça c'est sûr, et après je me suis documentée, j'ai regardé des documentaires, dont Depardon, mais Depardon, c'est, là j'ai revu les documentaires, mais de toute façon c'est un cinéaste qui m'a fait grandir, qui a changé ma manière de voir les choses, et Faits divers, Délits flagrants, tout ça, c'est vrai que c'est une inspiration... encore aujourd'hui, je trouve.
Donc voilà, c'est un film aussi qui est baigné aussi d'une histoire aussi personnelle, parce que vous avez aussi interrogé votre entourage aussi sur le métier d'avocat, parce que vous avez eu aussi ce témoignage sur ces avocats qui découvrent aussi le métier.
Oui, j'en ai beaucoup fait. J'ai fait des longs entretiens que j'enregistrais, que j'ai réécouté après quand j'écrivais, même pour saisir le vocabulaire, la manière de parler et tout. Et c'est vrai que, je sais pas, j'en ai vu 5, 6, 6, 7, je pense, en tout, des avocats. Et ils témoignent tous de la même chose, c'est-à-dire que les débuts difficiles, le stress, les lapsus en garde à vue, les conneries dites, les erreurs, quoi. Les erreurs qu'on fait forcément quand on débute. Et c'est vrai que là, vu que c'est des enjeux qui sont conséquents, hein, parce qu'il y a des vies qui peuvent en pâtir, du coup, il y a un stress qui est augmenté. Il y a ça j'ai fait pour quand j'ai commencé à écrire. Mais c'est vrai qu'avant, dans mon entourage, il y avait... Enfin, le sujet, en tout cas, il m'est apparu intéressant. quand dans mon entourage proche, il y a une jeune fille que je connais avec qui j'ai une dizaine d'années d'écart, et donc je la connais depuis qu'elle est toute petite. Et c'était une jeune fille très introvertie et assez timide, qui était avocate dans un cabinet affaires, des affaires pénales et des affaires, et qui s'est retrouvée en charge de sa première affaire pénale et qui devait défendre un grand-père accusé d'inceste sur ses deux petites filles. Et qui s'est retrouvée propulsée à rentrée de vacances, c'était au Sable d'Olonne, elle a tout quitté pour y aller, voilà, son patron lui a demandé d'y aller, et à partir de cette affaire-là, je l'ai vue en quelques mois changer, et je me suis dit que c'était quand même assez, assez notoire et assez intéressant de voir comment justement un emploi, le métier qu'on fait peut changer la personnalité, et c'est quelqu'un qui s'est affirmé, qui est parti de chez elle, aussi, qui vit avec sa mère et qui est partie, tout ça, qui s'est trouvé.
J'ai peur. S'il se prend 30 ans de prison à cause de moi.
Il y a des gens qui sont en prison qui n'ont rien fait et des assassins en liberté, c'est comme ça.
On peut avoir des problèmes.
Fallait y penser avant.
La vérité du client, c'est la vérité. Faut se bouger un peu, la Nora, merde.
Maître,
racontez-moi ce qui s'est passé.
Les plus belles mélodies du cinéma sur le 94.1.
He left no time to regret. Kept his dick away with his same old safe bag. Me and my head high, and my tears dry, get on without my guy. You went back to what you know, so far from all that we went through, and
Vous avez reconnu la voix soul d'Amy Winehouse. Après un documentaire plébiscité Amy, c'est un biopic qui lui est consacré aujourd'hui, réalisé par Sam Taylor Johnson avec Marisa Abella. Back to Black retrace la vie et la musique d'Amy Winehouse à travers la création de l'un de ses albums les plus iconiques de notre temps, inspiré par son histoire d'amour passionné et tourmenté avec Blake Fiedler Civil. Dès aujourd'hui au cinéma.
Avant-première, débat, événement, à l'affiche dans votre cinéma.
À voir depuis le 17 avril au cinéma, Ici et là-bas, de Ludovic Bernard par le réalisateur de L'Ascension, avec Amel Silla, Hakim Jimili, qu'on a rencontré aussi au Arras Film Festival pour Chasse gardée, Hugo Becker, un film sur la famille, le voyage et le travail. Pourquoi ce choix ? Puisqu'une séquence a été tournée sur la Côte d'Opale, et plus précisément à Berck-sur-Mer. Pour voir Berck-sur-Mer donc sur les écrans, découvrez Ici et là-bas, bande-annonce.
Ça va, tout va bien ici ?
On a un incident diplomatique.
Ça fait 15 ans que je suis ici, hein. Je suis sénégalais.
Il nous faut les papiers sénégalais, sinon vous...
Ça veut dire quoi, vous ?
On a un gros problème.
Allô, maman ? Je le connais pas, le cousin, moi. Comment ça, il a passé papier ?
Cousin !
Toi, t'es le fils d'Ousmane ?
Beau fils !
Tu savais qu'il était blanc ?
Je veux un passeport sénégalais, moi.
Il est bien mignon avec ses histoires de passeport. En attendant, moi, je risque mon job.
Et c'est quoi ton job ?
Je travaille chez Terroir de nos régions. Je représente les terrines, les foie gras, le bon pain, les spécialités françaises.
Mais moi, comment je fais, là ?
Bah, tu m'accompagnes. Oui, allô, Alexandra ? Je suis en chemin, là. Mais ça bouchonne pas mal, hein.
Tu parles bien le blanc, hein.
T'as intérêt à te tenir à carreau, toi. D'habitude, je suis derrière un téléphone. La province, c'est compliqué pour moi.
Moi, je te vois habillé comme ça, personnellement, je t'achète n'importe quoi. Hein.
Ils savent pas que je suis noir. C'est bon, tu comprends, là ?
Si ça peut te rassurer, cousin, pour moi, t'es super français. Hein. Tu gueules, tu râles tout le temps.
Et tu ronfles ! Non, je ronfle pas ! Vas-y, tu ronfles !
Pour moi, tu es la France à toi tout seul.
C'est con.
Je l'aime bien, mais il est...
Tu irais dormir chez la dame de haute Savoie.
Comme un peu blanc.
Merci d'avoir suivi Scarpe Ciné. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur radioscarpesensé.com où vous pouvez retrouver Stéphane Demoustier, Jean-Jacques Hano, l'acteur de l'Empire Brandon Vlieg, Fien Troche, Candy Ming et le réalisateur régional qui nous vient d'Amiens, Joris L'Aquitan. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, vous connaissez le refrain. Allez au cinéma. Scarpe Ciné, séquence 13.
Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarpe Sensé, ça tourne.
Et action !